BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Patrick Artus, merci encore d'être avec nous, membre du Cercle des économistes, bien sûr, chef économique et membre du comité exécutif de Natixis. Vous publiez 40 ans d'austérité, comment en sortir, chez Odile Jacob. Et Patrick, surtout, on vous suit notamment sur vos comptes Twitter et on voit bien que ça fait partie, en tout cas, de vos interrogations sur faut-il augmenter les salaires, est-ce possible et quelles en sont les conséquences. Peut-être d'abord une question sur le chômage partiel. Patrick, est-ce que vous estimez qu'on doit sortir un peu, enfin, pas sortir, en tous les cas, on doit peut-être revoir les modalités du chômage partiel. Ça sera à partir du 1er juin, si l'on en croit, Muriel Pénicaud.
Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y en a une qui est acquise, hein, il me semble. C'est qu'une toute petite partie du coût du chômage partiel sera mise à la charge de l'employeur. Ça, c'est pour éviter que ce soit une assurance totalement gratuite. Hein. Vous savez d'ailleurs que la plupart des économistes détestent les assurances gratuites parce que ça crée des effets pervers. Hein. Donc, il me paraît parfaitement légitime. Et je crois que le Conseil d'analyse économique, d'ailleurs, a publié un travail qui va tout à fait dans ce sens, hein, qu'on ait une petite partie, on parle de 10%, hein, de la charge qui revient à l'employeur. Et puis, je crois qu'il faut se poser une question aussi plus importante dans le plus long terme, qui est, beaucoup de salariés, après cette crise, vont devoir changer d'activité et de secteur. Il y a des secteurs qui vont mal, hein, on les connaît tous, vous parliez de l'automobile, hein, il y a le transport aérien, enfin, il y a sans doute l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'aéronautique. Et puis il y a des secteurs qui vont aller bien, vous parliez aussi, hein, tout ce qui est numérique, la santé. Et donc il va y avoir des transferts d'emplois. Et alors peut-être on pourrait associer le chômage partiel à de la formation. Hein, c'est une idée qui commence à circuler, qui me paraît excellente,
absolument, oui.
En disant qu'il va vraiment falloir réfléchir à basculer des centaines de milliers de salariés, des secteurs qui vont mal vers les secteurs qui vont bien. Il faut maintenir leur rémunération pendant ce process, hein, et il faut les aider. Donc on peut sans doute avoir une utilisation intelligente du chômage partiel.
Et juste ce que disait Emmanuel Macron hier dans le documentaire qui a été proposé par BFM TV, avant-hier soir, pardon, il disait, mais on a quasiment nationalisé le travail aujourd'hui en France parce que vous avez la majeure partie des salariés qui sont aujourd'hui payés par l'État, quelles qu'en soient les différences entre les fonctionnaires, les retraités et puis ceux qui sont au chômage partiel.
Oui, bien sûr, mais bon, d'abord c'est pour deux mois. Hein. Alors, le chômage partiel va continuer, évidemment, surtout dans les secteurs qui souffrent. Mais c'est un choix de politique économique que tout le monde a soutenu. Hein. Pendant le confinement, les États, parce que la France est un cas particulier de cette règle générale, les États ont pris à leur charge la totalité de la perte de revenus, ou la quasi-totalité. Alors, pas la totalité en France. Hein. Vous avez vu les travaux de l'OFCE qui nous disent que l'État n'a pris à peu près à sa charge que 70% de la perte de revenus. Mais il y a des pays où l'État a pris 100% à sa charge de la perte de revenus. Alors, bien sûr, ça ne peut se faire que sur une période de temps courte. Ça révèle quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, les États sont l'assureur en dernier ressort de nos sociétés.
Oui.
Je veux dire, quand il y a une chute de PIB comme ça, seul l'État peut finalement avoir la crédibilité qui lui permet de s'endetter quand ça va très mal, en remboursant plus tard quand ça ira mieux. Les entreprises ne peuvent pas faire ça, les personnes, les individus ne peuvent pas faire ça. Oui, bien sûr, on a fait ça.
D'accord.
Mais et du coup, c'est un arbitrage. L'arbitrage, c'est qu'en sortie de crise, on va avoir des entreprises qui vont être très endettées. Mmh. Mais on aura beaucoup moins de faillites. Il y aura des faillites, évidemment. Hein. On peut estimer peut-être à 40% la hausse du nombre de faillites. Mais ça aurait été incroyablement pire si l'État n'avait pas fait ça. Mais le prix à payer, c'est une nouvelle réflexion qui doit s'ouvrir aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup d'entreprises vont s'être beaucoup endettées pendant ces quelques mois.
Ouais.
Et qu'une entreprise très endettée, ça n'a pas naturellement envie d'investir ou d'embaucher. Par exemple, ça repose une autre question qu'il va falloir traiter très vite, qui est la question des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail
cet
été.
Oui, bien sûr. On voit bien déjà concrètement, ils sont incapables déjà de trouver un stage. Le stage souvent qui ouvre des portes, notamment pour la formation. Tout petit point avant d'aller sur la question de l'austérité salariale, est-ce qu'on peut y remédier ou pas? Est-ce que, quand vous, voilà ce qu'on a dit sur le chômage, mais on peut le dire aussi sur d'autres secteurs, est-ce que c'est un peu la fin de la pensée économique libérale, Patrick Artus, vous l'économiste?
Bah, écoutez, je crois que cette crise accélère des tendances qui étaient déjà présentes. Dans l'économie, elle accélère le passage au numérique. On fait plus de télétravail, on consomme davantage en ligne, on utilise beaucoup plus tous les médias numériques.
Oui, mais par rapport au libéralisme,
en fait. On va robotiser beaucoup plus dans les entreprises, hein, comme c'est un point que vous avez souvent évoqué sur votre antenne, hein, comme les nouvelles réglementations sanitaires augmentent les coûts, la réaction des entreprises va être de robotiser, d'automatiser, donc on accélère la transition vers le numérique. Ce qui d'ailleurs va créer le problème de transition des emplois dont je parlais avant.
Oui, d'accord, juste Patrick, c'est par rapport au fait que la pensée libérale,
Bien sûr. Oui. Et c'est la même chose, finalement. On avait cette réflexion qui était commencée bien avant cette crise sur le capitalisme néolibéral. Oui. La critique du capitalisme néolibéral, elle ne date pas de la crise. La réflexion sur le partage des revenus, la réflexion sur l'environnement, la réflexion sur les délocalisations. Et bon, la crise, c'est bizarre, parce que si vous voulez, en réalité, cette crise n'a aucun rapport avec le capitalisme néolibéral. Alors, il faut s'étirer par les cheveux, quoi. Simplement, ça provoque une réaction globale sur nos organisations. Et là-dedans, il y a la réflexion sur qu'est-ce qu'on a délocalisé, qu'on n'aurait peut-être pas dû délocaliser. Est-ce qu'on partage convenablement les revenus entre les salariés et les actionnaires? Est-ce qu'on s'occupe suffisamment de l'environnement? Donc ces réflexions, elles viennent à l'occasion de la crise, mais elles ne sont pas une cause directe de la crise, mais elles viennent, c'est absolument clair.
D'accord, ok. Alors cette austérité salariale, parce que là, il y a tout un débat pour savoir, il y a même Esther Duflo qui est rentrée dans le débat pour savoir s'il fallait taxer les revenus du capital comme les revenus du travail, s'il fallait réinstaurer l'ISF, enfin vous voyez, on voit un peu ressortir toutes les vieilles lunes parfois, mais en tous les cas, il y a une question, savoir si comment résoudre ces inégalités. Et est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Je dirais, votre livre, il tombe à pic, hein, parce que c'est un peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors, on ne va peut-être pas refaire, comme il nous reste 4 minutes, les 40 ans d'austérité salariale, mais c'est plus qu'est-ce qui est possible ou pas, Patrick Artus?
D'abord, il faut regarder la situation bizarre de la France, et de l'Italie d'ailleurs, mais parlons de la France. Dans tout l'OCDE, il y a une déformation massive depuis 30 ans du partage des revenus au détriment des salariés. Si vous prenez l'ensemble de l'OCDE, les salaires n'ont augmenté que comme le tiers de la productivité. Et vous savez que normalement, les salaires devraient augmenter comme la productivité. Hein. Donc, si on faisait cette émission aux États-Unis, Edwige, on n'aurait pas l'ombre d'un état d'âme. Hein. On dirait qu'il faut massivement augmenter les bas salaires, puisqu'il y a eu un retard incroyable d'augmentation des salaires, et particulièrement des bas salaires aux États-Unis.
Et pourquoi pas en France ?
C'est pas vrai en France. Ce n'est pas vrai en France.
D'accord.
En France, grosso modo, les salaires ont suivi la productivité. Donc si on a un problème de bas salaire, c'est évident qu'avec 1200 euros par mois au SMIC, surtout si on est seul avec des enfants, on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas lié à la déformation du partage des revenus. Donc le remède qu'on pourrait utiliser aux États-Unis, on ne peut pas l'utiliser en France. On ne va pas pouvoir monter de 20% le SMIC. Si on montait de 20% le SMIC, on détruirait
les quantités d'emplois. Alors c'est lié à quoi ?
Alors, il faut être plus intelligent, c'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens d'augmenter les bas salaires qui ne passent pas par une hausse des coûts des entreprises. Alors qu'aux États-Unis, on pourrait augmenter massivement le SMIC, puisque normalement pas, mais ce n'est pas le cas en France. Mm-hmm. Et donc, il faut réfléchir à la participation et à l'intéressement dans les TPE. Je fais une liste pour tout, hein. On n'a pas le temps de creuser toutes ces idées, mais c'est évidemment une piste. Il faut réfléchir à continuer à baisser les charges des entreprises sur les bas salaires, même si ça veut dire des charges négatives d'ailleurs, hein, pour qu'on puisse financer des hausses de SMIC, par exemple. Du côté de l'État, bien sûr, il faut considérer que les salaires des infirmières ou des enseignants, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement public. Hein. Il faut attirer des salariés de qualité, motivés dans cette profession. Voilà. Mais on est obligé de tourner autour, on va trouver des astuces, parce que nous, en France, nous n'avons pas la marge de manœuvre qu'ont plein de pays de l'OCDE où on peut massivement augmenter les salaires. Chez nous, ça serait une très grave erreur de politique économique de le faire. Et puis, en dernier point, ne faisons pas, pour des raisons idéologiques, des erreurs politiques économiques. Je veux dire, la taxation du revenu du capital avant les réformes d'Emmanuel Macron, ça consistait à prendre à tout Français qui achetait une action 80 ou 90% des dividendes qu'il recevait. Donc évidemment, ça n'a pas de sens de revenir à cette situation. Et donc il faut absolument dire qu'on va conserver une fiscalité qui est devenue à peu près normale et qui n'est pas une fiscalité qui est totalement décourageante pour les gens qui veulent financer les entreprises.
Ouais, d'accord. Juste, donc, vous, par rapport à ce débat, vous considérez qu'il est totalement, pas illusoire, mais enfin, il ne servirait à rien, quoi.
Mais si vous voulez, il faut poser le vrai débat. On a en France un problème d'inégalité de revenus avant les politiques redistributives. Avant redistribution, nous sommes un pays très inégalitaire. Pourquoi ? Parce que nous avons un taux d'emploi très faible. Il n'y a pas assez de Français qui ont un travail normal, je dirais, à temps plein, avec un salaire décent. Et après, à cause de ça, on met d'énormes politiques redistributives par la fiscalité, les transferts sociaux, etc. Ces énormes politiques redistributives, elles nous donnent la fiscalité sur les entreprises la plus élevée que l'OCDE, et ceci détruit l'emploi. Donc on est dans un cercle vicieux terrible, où comme on n'a pas beaucoup d'emplois, on a des inégalités, on redistribue, on taxe pour redistribuer, et ça détruit l'emploi, donc ça aggrave les inégalités.
On est plus dans une spirale infernale. Voilà, on est dans un cercle vicieux, une spirale infernale. Mais merci beaucoup, Patrick Artus, comme toujours assez clair. Donc 40 ans d'austérité chez Odile Jacob, petit livre, mais qui pose bien les différentes questions qui sont un peu sur la table en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, et puis bien sûr, membre du Cercle des économistes. Dans un instant, on change complètement de registre. Là, c'est bientôt le pont de l'Ascension. Vous allez peut-être faire du sport. Lui, il aimerait bien que vous en fassiez dans ses salles de sport. C'est Arthur Benzakem, qui est le patron de Ken Group, qui est notre invité d'ici, allez, 2 minutes, 3 minutes. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Avec Edwige Chevrillon.
Allez, on va faire un petit peu de sport, ça va nous faire du bien. Enfin non, finalement, on ne peut pas faire du sport. Arthur Benzakem, bonjour.
Bonjour. Merci
d'être là, vous êtes patron de Ken Group, CMG Sports Club. Alors, vous me disiez, pour les vieux comme moi, c'est le Gymnase Club, après ça a été le Club Med Sport, après voilà.
CMG Sports Club, oui, et puis après, il y a tous les autres clubs, Clay, Blanche et Ken Club. Ouais.
Voilà, et combien de salles de sport au total?
24 et 2 en construction.
Oui, donc c'est dire... Alors, normalement, tout devrait être... va faire beau, tout va bien. Et bien justement, tout va pas bien parce que vous ne savez toujours pas quand vous pouvez réouvrir vos salles de sport.
Oui, et on sait surtout pas comment non plus, parce qu'en fait, les deux sujets sont liés. En fait, on pourrait nous dire, vous ouvrez demain, mais il faut un client tous les 20 mètres carrés, par exemple.
C'est quelque chose. Non, c'est pas 20 mètres carrés. Vous pourrez avoir un peu comme nous. On voit, il y a des couloirs. On a le droit de se mettre là, on n'a pas le droit de se mettre là. Il faut une distance entre les salariés.
Oui, mais si vous voulez, alors il se trouve qu'en plus, on va avoir après dans notre industrie des inégalités. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais savoir répondre à des problématiques, mais il y a une très grosse partie des industriels qui vont être les low cost, qui vont pas savoir y répondre parce qu'ils ont une densité au mètre carré tellement forte qu'ils n'ont pas de place pour mettre des couloirs de circulation différenciés et ils n'ont pas de personnel en plus pour essayer de faire respecter les gestes barrières. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas répondre aux problématiques d'ouverture.
Mais est-ce que vous... Voilà, mais il y a deux choses. Est-ce que vous avez le droit de rouvrir?
Non.
Non, d'accord. Non, mais parce que vous pourriez avoir le droit de rouvrir, simplement, vous savez pas comment instaurer les barrières sanitaires.
Tout à fait, vous avez raison. Donc là, dans un premier temps, on n'a pas de date et on n'a pas le droit de rouvrir. Nous, on a mis en place des cours outdoor. On a fait un partenariat avec Paris Society, qui est les plus beaux lieux de Paris, avec des terrasses et des jardins, c'est incroyable. Mmh. Avec Laurent de Gourcuff, exactement.
Qui est bien ici.
Qui est un ami et on a le même actionnaire, donc c'est formidable. Et on a utilisé ces terrasses pour faire des cours outdoor et solidaires, dont chaque inscription, c'est reversé 100% à la PHP.
Oui. Donc aujourd'hui, on va quand même dire que Ken Group, c'est quand même 1000 salariés. Enfin, je veux dire, c'est un vrai groupe, quoi. Je veux dire,
ça pèse lourd. Il y a des gens qui pèsent beaucoup plus lourd, mais effectivement, on est une entreprise de service. Donc effectivement, notre richesse capitalistique, c'est les gens.
Ouais. Voilà. 50 000 membres.
50 000 membres.
Et là, qu'est-ce que vous faites du reste pour ceux qui sont qui ne peuvent pas aller dans vos salles de sport depuis 3 mois?
Écoutez, c'est tout le sujet est là, mais en fait tout le pays, on est un petit peu à la même enseigne pour le coup. C'est que nous, on a arrêté donc les prélèvements sur nos membres dès le 15 mars. Donc en fait, depuis le 15 mars, on fait 0 € de chiffre d'affaires. Donc pour nous, la problématique, elle n'est pas exactement quand est-ce qu'on va rouvrir, mais elle est plutôt de savoir est-ce que on va devoir payer les loyers ou non.
Oui, enfin, c'est quand même, j'espère que vous comptez bien rouvrir un jour ou l'autre, quand même.
Oui, bien sûr, mais je ne vais pas dire que plus tard on ouvre, mais il faut quand même de la data, il faut quand même des informations sur savoir comment se comporte le virus post-déconfinement, qu'est-ce qui fonctionne en gestes barrières, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en gestes barrières, est-ce que ça passe à travers les clims.
Et oui, puis on transpire quand on fait du sport, donc là aussi, il y a quand même une question.
Exactement. Ouais. Donc plus on est informé, mieux on peut répondre à un problème de sécurité sanitaire.
Ouais. Donc là, il y a vous, mais évidemment, toutes les autres salles de sport sont dans la même situation que vous.
Exactement.
Le premier poste, vous le rappelez, le premier poste de votre compte d'exploitation, ce sont les loyers. Et donc là, où est-ce que vous en êtes avec les bailleurs? Où est-ce qu'il y a des discussions? Comment ça se passe?
Alors, soyons clairs. Pour nous, c'est un scandale financier qui va avoir lieu. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme l'a rappelé Patrick Artus juste avant moi avec vous, alors d'abord, l'État n'a pas pris en charge la perte de revenus, et il a pris en charge une partie des charges. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, effectivement, on n'a pas de revenus, on a zéro revenu. Ce qui a été nationalisé, ce sont une partie des salaires. En revanche, effectivement, il reste des charges fixes lourdes comme les loyers. On a pu mettre en place des PGE, mais pour vous donner une idée, nous, aujourd'hui, on a 100 000 mètres carrés, à peu près, 5 millions d'euros de loyers si on doit rouvrir courant juillet. Ça veut dire, entre le 15 mars et le 15 juillet, c'est approximativement ça, 5 millions d'euros de loyer. Si j'ai 0 euro de chiffre d'affaires en face, c'est une catastrophe. On n'a pas, et en l'occurrence, on a pu faire un PGE, à hauteur pareille de 20%. C'est-à-dire que j'ai 20% de mon chiffre d'affaires, c'est mes loyers, et là, je peux faire un PGE de 20%. C'est-à-dire, on m'a demandé de m'endetter pendant X années exclusivement pour payer mon loyer. Aujourd'hui, c'est la demande qui a à peu près été faite. Ça n'est pas tenable.
C'est un PGE de combien? Vous avez dit le montant, pardon, je n'avais pas...
On a demandé un PGE à hauteur de 20% de notre chiffre.
Et qui est de...
Donc on fait 50 millions, on a demandé 10 millions. On n'a pas eu encore l'intégralité.
Ouais. Et les banques ont suivi?
Les banques suivent en partie, ça a été
un point diesel,
ça a été dur au démarrage.
Dur, ah oui.
Dur au démarrage, mais les banques suivent. Il nous manque encore des réponses définitives. On a des accords oraux, mais après, il faut que ce soit présenté. Il nous manque encore 2-3 banques à closer.
Ouais, parce qu'elles traînent un peu des pieds.
Elles ont beaucoup de dossiers aussi à étudier, mais effectivement, il y en a certaines qui traînent des pieds, oui.
Arthur Benzaken, en même temps, alors ici on parle d'économie, les bailleurs, eux aussi, ils ont des charges. Enfin, je veux dire, c'est des groupes, des foncières ou des propriétaires. Je ne sais pas exactement qui sont les propriétaires de vos murs, mais eux aussi, ils ont besoin de rémunération, ils ont besoin de loyer. Vous voyez, c'est une chaîne. Enfin, non,
j'entends. Dans ce que vous me dites et dans ce que aujourd'hui prônent les bailleurs, c'est qu'en fait, ils espèrent n'être absolument pas concernés par cette crise. Parce qu'ils auraient des charges.
Il y en a beaucoup quand même qui ont...
Ah, oui. Beaucoup de bailleurs privés. Oui. Nous, on a des bailleurs privés avec qui on arrive à avoir des conversations. Pourquoi? Ils ont une relation intuitue personnée. C'est important pour eux d'avoir un bon locataire, quelqu'un qui paye son loyer, qui sait entretenir des locaux. Mais la plupart, et ça, c'est les plus graves, c'est les bailleurs institutionnels. C'est-à-dire qu'ils ont la double casquette d'être assureurs qui ne payent pas les pertes d'exploitation. Et en plus de ça, qu'on voit des petits plébieux pour viser la clause résolutoire des baux quand ils ne sont pas payés le 4 avril. Ça, c'est à mettre en tête de liste du name and shame. Et en deux, effectivement, il y a des foncières. Ce qui est important de comprendre, c'est que, d'abord, pratiquement...
Il n'y a aucune négociation, renégociation des cases.
Il y a une surdité absolue. Il faut savoir que la plupart ont déjà renégocié avec leur banque le décalage de leur remboursement. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que les bailleurs ont non seulement négocié un décalage de leur remboursement et de leurs échéances et de leurs mensualités, mais en plus de ça, ils réclament le loyer. S'ils ne prennent pas leur part de cette crise, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer beaucoup plus que ce que pouvait dire justement Patrick Artus juste avant, c'est-à-dire une augmentation de 40% de dépôt de bilan. Peut-être qu'on va avoir, en tout cas dans le commerce, sur les 16 fédérations de commerce, qui représentent à peu près 2 600 000 emplois, à peu près 700 000 magasins, on va se dire, il peut y avoir 25% à 30% de dépôt de bilan, ce qui veut dire de la vacance commerciale, ce qui veut dire des problèmes au niveau de l'aménagement du territoire, de la distribution.
Il n'y a pas un médiateur, Julien Normandie la semaine dernière qui est ministre de la ville, enfin, ou du logement aussi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes allé à Bercy? Parce que ça paraît assez sidérant, cette situation.
Le problème, c'est que Bercy, et j'aimerais en même temps défendre Bercy, parce que Bercy a réagi extrêmement vite et extrêmement puissamment. Oui. Encore une fois, oui. Le chômage partiel et les PGE, ça a été un courage politique et une rapidité d'exécution qui était folle. En revanche, ils sont à un stade où ils disent « il n'y a plus un euro qui sort ». vous nous oubliez, il n'y a plus un euro qui sort. Donc il faut que vous vous mettiez d'accord de gré à gré. Le problème de se mettre d'accord au gré à gré, c'est qu'à ce jour, il y a des gens qui réfléchissent à très court terme et qui se disent... Soit, en fait, si je ne me mets pas d'accord, soit je récupère mes loyers, soit je récupère des fonds de commerce pour zéro. Donc, en fait, je n'ai aucune raison de me mettre d'accord.
Et ça, c'est 100% des bailleurs c'est
100% des bailleurs, en tout cas, que institutionnellement. Non. Il y a Compagnie de Falsbourg, il y a Citrus, il y a Frey. Il y a pas mal de monde aujourd'hui qui commence à avoir, en fait, un lien avec leurs locataires, c'est-à-dire le commerce, et de soutenir le commerce et de comprendre qu'en fait, faut être clair, hein, 3 mois de franchise, je ne vais pas dire que c'est rien, hein, mais on est en train de parler de très grosses compagnies d'assurance, on est en train de parler de très grosses foncières. 3 mois de franchise, c'est le béaba, c'est une base de négociation de tous les beaux commerciaux. Une franchise ne coûte pas. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la valeur patrimoniale. Pour espérer revenir à des niveaux de loyer de décembre 2019, il faut jouer le jeu et mettre ces franchises en place.
Et le médiateur, il dit quoi là-dedans ?
Le médiateur, en fait, le problème qu'il a, le médiateur...
Vous l'avez vu déjà ?
Alors moi, personnellement, non, puisqu'on a des organisations professionnelles, ouais, mais avec qui on travaille quotidiennement. Mais le médiateur, il est là pour mettre deux parties d'accord. Mais on a des positions tellement diamétralement opposées, parce qu'il y en a un qui fait un déni de la réalité absolue, bah qu'en fait, c'est impossible. Je pense que c'est impossible de se mettre d'accord. Je tire la sonnette d'alarme avant la fin. Hein, elle n'est pas terminée, la médiation. Mais moi, je pense que ça va se finir juridiquement.
Ouais, et surtout, vous avez déjà reçu des lettres.
Oh bah, tout le monde a reçu des lettres. Ouais. Tout le monde a reçu des lettres. Ouais. Mais je vais vous dire... c'est pratiquement churchillien. C'est vous avez voulu éviter la crise au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et vous aurez la crise. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Si à un moment, il y a 25% de vacances commerciales, il y aura un déplafonnement vers le bas.
Ouais. Juste en conclusion, Arthur Benzaken, le monde d'après, selon vous, c'est quoi ? C'est finalement, c'est beaucoup mieux de faire ça des coachs qui donnent des cours sur votre sur le smartphone.
C'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux, mais il y a une chose qui est sûre, il faut prendre. C'est un côté extrêmement positif ce qui s'est passé. On est déjà effectivement en train de travailler sur un club de sport digital, voir comment est-ce qu'on va accompagner ce plus de 1 milliard de personnes qui se sont mis au sport à domicile, qui pensaient que c'était impossible. Eh ben non, on a une surprise pour vous. C'est possible. Et comme le
un
sport...
1 milliard, vous sortez d'où ? 1 milliard ?
Sur la planète.
Évidemment pas en France.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais, et puis voilà, on se rend compte que le sport est plus que jamais important dans cette crise et à horizon des JO 2024.
Merci, j'ai envie de dire bon courage. En tous les cas, Arthur, merci, vous a dit. Alors maintenant, il n'y a plus de sous qui sort, donc démerdez-vous. Mais en même temps, on est prêt quand même à vous suivre, à vous donner des coups de pouce. Hein.
On espère.
Merci beaucoup, Arthur Benzaken, le patron de Ken Group. Dans un instant, lui, il pourra peut-être vous aider. C'est le patron de Facebook pour la France, l'Europe du Sud, pour tout ce qui est justement en ligne. C'est Laurent Soli. Et bien, lui aussi, il se renforce, il se développe dans l'e-commerce. On voit ça tout de suite. Et puis tiens, on parlera quand même de ce petit bras de fer, échange tendu, on va dire, hier, entre Thierry Breton et Mark Zuckerberg. Ça se passait en Belgique, évidemment, mais c'était online. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Laurent Soli, il est le vice-président de Facebook France, mais aussi toute l'Europe du Sud. Laurent Soli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Le Facebook qui a décidé d'accélérer son... pour rattraper son retard dans l'e-commerce avec Facebook Shop. Mais j'ai peut-être deux questions d'actualité. D'abord, j'imagine, Laurent Soli, que vous avez regardé ce petit bras de fer, cette joute verbale en tous les cas, entre Thierry Breton, le commissaire européen, en charge notamment de Facebook, si j'ose dire, et puis, bien sûr, le fondateur et votre président, Mark Zuckerberg. Alors, il y a Thierry Breton qui lui a dit « J'ai toujours dit à mes collaborateurs, ne jouez pas au plus malin, et puis quand vous devez payer vos impôts, il faut les payer. » Et on a vu Mark Zuckerberg rester totalement impassible. Bon, vous avez pensé quoi, cet échange verbal ?
Sur cet échange, je peux vous dire que c'est un sujet sérieux et que nous le prenons très au sérieux. Mais je vous réponds ce matin, très clairement et très calmement, nous payons nos impôts. Et nous payons nos impôts en Europe et nous payons nos impôts en France. En 2017, nous avons décidé de changer notre système de déclaration de revenus et donc fiscale. Désormais, tous les revenus que Facebook France produit par les équipes qui sont installées ici à Paris sont déclarés en France, facturés par Facebook France, et nous payons donc l'impôt sur les sociétés. Et cette décision, nous l'avons prise il y a longtemps. Et donc nous avons commencé à payer nos impôts sur les sociétés en France à partir des revenus de 2018. Donc voilà, je veux profiter d'être invité ce matin pour vous donner cette réponse. Nous payons bien nos impôts dans les pays et notamment dans notre pays.
Et donc c'est une fake news.
Je ne dirais pas ça parce que Monsieur Breton a bien sûr ses informations et a dialogué avec Mark Zuckerberg. Mais vous savez, c'est important de revenir sur ce sujet parce que cette question, elle est légitime. Elle nous a été posée, elle est posée régulièrement.
Non-stop chaque fois, bien sûr, vous êtes habitué, Laurence
Donc,
Folly.
Je le dis, je le redis, mais je le redis depuis d'ailleurs plusieurs années et mois. Pour ce qui concerne les grands pays comme la France, nous payons nos impôts
Mais
en France.
Mais par exemple, en 2019, vous avez payé combien en 2019 Vous avez payé combien d'impôts?
En 2019, on a payé l'impôt sur les revenus de 2018. C'était un peu moins de 6 millions d'euros. C'était trois fois plus par ce changement que les impôts précédents. Cet été, nous allons publier nos comptes. Vous verrez les impôts sur l'impôt sur les sociétés que nous allons.
6 millions pour Facebook France. Hein, on est Facebook France, hein, bien sûr. Mais c'est beaucoup quand même, non ?
Regardez surtout la tendance. C'est que nous avons changé notre système fiscal en 2017-2018. L'assiette, soyons précis, sur lesquelles nous avons payé nos impôts en 2018, c'est l'assiette d'abord des 6 mois de 2018 parce que nous étions en train de changer notre système de comptabilité. L'impôt que nous allons payer, les chiffres seront publiés au courant de l'été, sera pour 2020 sur l'ensemble du revenu 2019.
Donc bien sûr, bien plus supérieur.
Et supérieur. Et vous verrez, en tendance, nous payons désormais nos impôts en France et nous en payons plus. Je rajoute enfin un point sur l'année 2019, c'est que nous avons payé l'impôt sur les sociétés comme toutes les entreprises françaises. Et puis nous avons aussi payé un nouvel impôt qui s'appelle l'impôt dit GAFA. Nous l'avons payé à la fin de l'année 2019.
Combien ça représentait la taxe GAFA, comme on dit
Le chiffre n'est pas public, mais vous voyez bien.
C'est l'ordre quoi, de ce que vous avez payé en termes d'impôt.
Le chiffre n'est pas public, mais vous voyez bien que nous sommes un contribuable français. Et que nous avons fait ce choix il y a de nombreuses années de payer désormais dans les pays. Nos impôts. Donc voilà la contribution fiscale qui est celle de Facebook France et nous nous comportons comme une entreprise française, revenu déclaré en France, impôts payés auprès de la France et du ministère des Finances.
Oui. Voilà, simplement, c'est vrai, mais on va voir le chiffre, hein, puisque vous dites que ça sera
cet été, parce que
vous avez 38 millions de personnes qui utilisent Facebook chaque mois en France. Hein, on se dit, 6 millions, c'est pas beaucoup, mais en même temps, on a bien compris que c'était sur une partie des revenus.
Merci à vous.
2018.
Merci.
Voilà, on a bien compris. Non, mais c'est important.
Très important, merci de me poser la question. Et je profite pour le dire et le redire, parce que c'est une question très importante, très sensible. Et je pense que la clarté de cette réponse est utile.
Est-ce que le confinement a été, j'ai envie de dire, vous a rapporté beaucoup ? Enfin, c'est un peu un gros mot, mais de temps en temps, il faut bien être un peu dans le concret. Est-ce que tout le monde a utilisé Facebook, non, pendant le confinement ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu une explosion
Nous avons vu deux choses dans le monde au moment du confinement et l'impact le plus dur de la crise. D'abord, ça a été une accélération naturelle de l'utilisation des plateformes. Parce que si nous étions distanciés physiquement et confinés chez nous, nous avions besoin de liens sociaux. Et Facebook est un réseau social. Et donc les plateformes de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ont été très fortement utilisées.
Vous avez des chiffres, je vais vous en donner quelques-uns.
Il y a désormais 3 milliards de personnes dans le monde qui utilisent ces plateformes. Si vous prenez quelques chiffres, les appels groupés vidéo qui ont été très utilisés pour se voir sur Messenger et WhatsApp, ils ont plus que doublé. Il y a plus de 700 millions de personnes chaque jour qui utilisent ces deux plateformes de messagerie pour parler dans des appels vidéo groupés. Et puis, vous l'avez dit, nous avons franchi en France, il y a quelques semaines, la barre des 38 millions de Français qui utilisent désormais Facebook. Donc, une utilisation très forte, parce que nous avons besoin de liens sociaux.
Mais là, vous avez dû franchir les 40 millions, j'imagine, là. Parce que vous dites, il y a quelques semaines, 38 millions. Mais...
Alors, il y a quelques semaines, on est à 38 millions. On verra dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et on voit bien sûr une utilisation très forte parce que le besoin social est très important. Pour rester connecté à nos amis, aux gens qui nous sont chers, aussi aux entreprises avec lesquelles nous avons l'habitude de commercer ou de discuter. Et ça, on l'a vu très fortement. Ensuite, sur la partie peut-être plus de l'activité, nous l'avons dit au moment de la publication de nos résultats du premier trimestre, nous avons senti un impact, bien sûr, dans la baisse de la demande publicitaire, puisque c'est notre modèle publicitaire, notamment au mois de mars, qui a été très net. On verra, bien sûr, à la fin du deuxième trimestre. Nous publierons les chiffres à la fin du mois de juillet.
Ouais. Est-ce que c'est pas Instagram et WhatsApp qui ont encore plus cartonné?
Non, toutes les plateformes ont été utilisées très fortement. Si vous prenez par exemple Facebook, la plateforme bleue, comme on le dit en interne, on a franchi les 2,6 milliards d'utilisateurs. Et si vous prenez le chiffre de fin mars 2020, comparé à fin mars 2019, c'est une croissance de plus de 10% d'utilisateurs, sur déjà un nombre conséquent d'utilisateurs. En janvier, nous avons également annoncé que WhatsApp avait franchi la barre des 2 milliards. Toutes les plateformes ont été utilisées, et pas uniquement d'ailleurs celle de Facebook. Vous avez vu, dans un environnement d'ailleurs très compétitif et concurrentiel, que d'autres réseaux sociaux, d'autres plateformes de connexion ont été puissamment téléchargées et utilisées par les Français et le monde entier.
Oui, justement, c'est une petite différence, je reste, pas divergence, mais entre l'utilisation de Facebook aux États-Unis et l'utilisation de Facebook à l'international. C'est-à-dire qu'à la limite, en international, voire en France, on utilise plus qu'aux États-Unis où Instagram est en train de développer d'une manière assez spectaculaire.
Oui, vous voyez des différences géographiques dans l'utilisation des plateformes. Évidemment, il y a beaucoup d'utilisateurs de Facebook en Europe. Vous voyez une répartition géographique entre l'utilisation de Messenger et de WhatsApp qui, en général, est liée à l'histoire technologique des pays. Mais l'ensemble des plateformes, et d'ailleurs l'ensemble des outils digitaux, ont été très utilisés pendant cette crise, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Et nous faisons, en tout cas, une leçon de tout ça. Nous voyons une leçon de tout ça, de cette crise. C'est l'accélération de la transformation numérique du monde, des échanges, des entreprises et des sociétés.
Ouais.
Toutes les grandes crises ont un impact d'accélération.
Et est-ce que vous dites
et
pas
ça, nous le voyons très fort.
Est-ce que vous dites pas que c'est le moment, je sais pas, parce qu'il y en a une, il y a une plateforme qui a complètement explosé. Enfin, une application, c'est Zoom. Enfin, je veux dire, personne ne connaissait. Maintenant, tout le monde utilise Zoom. Pardon de dire ça devant vous, Laurent Soli. Est-ce que vous dites pas, il faut faire. Vous avez déjà quelque chose, mais qui fonctionne, enfin en tout cas qui a été moins bien utilisé que Zoom. C'est pas le moment de racheter Zoom, je ne sais pas. Bon, c'est d'accord, ça appartient à des fonds asiatiques. Mais
je ne sais pas si ça fonctionne mieux que certaines de nos plateformes ou nos outils. D'ailleurs, vous le savez bien, la vidéoconférence ou la vidéocall où vous vous appelez en vous voyant est une fonctionnalité ancienne pour Facebook. Messenger ou sur WhatsApp, on en parlait à l'instant. On a aussi lancé une innovation que l'on appelle Rooms, qui nous permet justement de nous regrouper à 50, si on veut, en ayant des appels vidéo groupés. On a augmenté la capacité d'avoir des appels groupés vidéo sur WhatsApp. On est passé de 4 à 8. Donc, on est déjà dans cette activité-là. Vous dites en revanche quelque chose.
L'émergence a été quand même spectaculaire. Vous dites, ça vous a frappé,
bien sûr,
j'imagine.
Mais vous dites quoi ? Et vous avez raison. C'est un marché compétitif. Nous avons des concurrents. Et le digital et l'industrie numérique depuis plus de 20 ans a montré à quel point elle était compétitive, elle était rapide, et donc il faut toujours apporter des innovations. C'est aussi ce qu'on a fait pendant cette crise. Pour nos utilisateurs d'abord, pour les TPE et les PME, et qu'on est resté très actif pendant la crise pour apporter des outils. J'en ai cité quelques-uns à l'instant, et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, hier nous avons annoncé Facebook Shops pour aussi les TPE, les PME, les entreprises.
Alors comment ça va marcher? Pourquoi? Quelle est la cible exactement? C'est-à-dire que c'est une sorte de... Chacun pourra aller... c'est comme une petite boutique sur Facebook, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça.
Oui, on a constaté quoi d'abord pendant ces deux mois? C'est, comme je vous le disais, l'accélération de la transformation numérique. Et surtout que le e-commerce dans le monde a fait un bond incroyable.
Et vous étiez un petit peu en retard là-dessus. On peut dire ça comme ça. Enfin bon.
On va y venir. Mmh. Mais d'abord l'analyse, le bond du e-commerce. Ouais. Et vous le voyez très bien avec un autre phénomène qui est que à partir du moment où les économies se déconfinent, que les boutiques rouvrent, on ne revient pas exactement ex-ante. Et donc il s'est produit un phénomène d'accélération extrêmement nette. Et dans toutes les études, on voit que cette accélération est extrêmement forte. McKinsey, il y a quelques jours, publiait un rapport en disant en 8 semaines, ils estiment que l'accélération numérique vaut à peu près ce qu'on aurait fait en 5 années. Et que vous regardez notre pays, en quelques jours, entre la fin mars et avril, on a rajouté près de 2,5 millions de consommateurs en ligne qui n'étaient jamais allés acheter. Et que quand le déconfinement se produit, les habitudes qui sont prises pour la grande majorité des consommateurs dans le monde demeurent. Donc nous, nous pensons que le numérique, le digital, sera un des leviers de la reprise. Nous avons dans le monde 160 millions d'entreprises qui utilisent nos services. Dans notre pays, la France, plus de 50% des TPE et des PME utilisent les plateformes de Facebook. Donc, nous pensons que c'est notre rôle, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de mettre en place un nouveau service très vite pour aider le commerce en ligne, pour aider ceux qui ne peuvent pas vendre aujourd'hui à trouver des débouchés, un agriculteur, un artisan, une TPE, une PME,
oui,
pour accélérer.
Ça, et puis le ça ouvre produit. Un peu de publicité aussi, c'est un nouveau marché.
Ça sera après. Oui. D'abord, c'est un produit gratuit et simple, qui vous permet, comme vous l'avez dit, de télécharger très rapidement et d'installer une interface de vente en ligne. Vous téléchargez cette interface, vous mettez tout votre catalogue de produits, il est immédiatement disponible sur votre page Facebook et si vous avez un profil Instagram, également sur Instagram. Et donc très facilement, vous pouvez présenter vos produits et proposer de vente en ligne. Dans quelques semaines, nous pourrons plus dialoguer avec des vendeurs en utilisant Messenger ou WhatsApp, comme on le fait dans une boutique traditionnelle, parce que nous pensons que le commerce va changer.
Donc, ça sera le lien entre Facebook, Messenger et WhatsApp.
Oui, vous pourrez absolument dialoguer. Ça se fait d'ailleurs aujourd'hui.
Oui.
Où vous pouvez utiliser Messenger et les entreprises en France. Pendant la crise, nous avons accéléré l'utilisation de WhatsApp. De grandes entreprises se sont mises à utiliser. Carrefour, qui a digitalisé ses catalogues de produits et ses prospectus dans les régions françaises. Donc, Shops, c'est un moyen et un outil donné aux TPE, aux PME, à toutes les entreprises, au tissu économique, pour accélérer ce bond vers le commerce en ligne, avec toutes les innovations que nous avons et que nous proposons sur les plateformes.
Alors, l'annonce a été faite hier soir. Merci d'être là, hein, Laurent Soli, pour expliquer ça. À partir de quand c'est opérationnel? Depuis ce matin?
Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer l'implémentation de cet outil dans le monde entier. Donc ça va prendre plusieurs semaines et plusieurs mois, bien sûr, mais nous avons décidé de le faire globalement. Parce que là aussi, les outils numériques, les outils de commerce vont être un élément de la reprise. C'est très utile pour toutes les TPE et les PME, et donc nous voulons être prêts le plus vite possible. Ça commence aujourd'hui.
Ouais, et la question rémunération, la commission, c'est de combien? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y en a peut-être certains qui vous écoutent, qui se disent, je vais peut-être y aller. Hein, donc,
je vous réponds, bien sûr. Cet outil est gratuit.
D'accord.
Aucune commission. Okay. Vous l'installez. Vous mettez vos catalogues de produits, vous pouvez personnaliser votre boutique, vous pouvez même avoir accès aux outils technologiques les plus modernes, la réalité augmentée pour essayer par exemple des produits de beauté, la 3D pour voir des vêtements. Et donc dans un premier temps, immédiatement, bien sûr, ce produit, il restera absolument gratuit pour toutes les entreprises.
Et vous percevez quelque chose sur les ventes qui ont été réalisées? Rien
ni
du
commission
tout.
Sur les ventes,
ni
prix pour utiliser cette boutique digitale. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, quand le produit sera bien installé, qu'il fonctionnera, on proposera la possibilité de faire de la publicité pour aller toucher d'autres clients, d'autres prospects, gratuits, simple, efficace, natif, automatique.
Parce que quand même, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes un incroyable, et je dis ça avec, je trouve que c'est assez intéressant, mais un aspirateur à publicité, Facebook. Donc là c'est un outil aussi très fort.
Ce n'est vraiment pas l'objet de ce produit. C'est vraiment répondre à un besoin qui se
immédiat,
manifeste.
Immédiat.
Répondre aussi à un besoin que les entreprises partage avec nous, des changements des consommateurs. Les gens qui ont acheté en ligne pendant cette période...
Il y a un nouveau modèle qui est en train de se créer, vous avez raison.
Resteront en ligne. Ils retourneront bien sûr en boutique. Mais on ne reviendra pas exactement aux mêmes chiffres et à la même façon de faire du commerce. Nous, on pense que c'est notre travail, notamment auprès des plus petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'investir dans ces outils technologiques. Elles sont frappées durement par la crise. On ne peut pas leur demander parfois de créer un site web, de créer une application. Grâce à Facebook et Instagram, tout ça est disponible dans l'application. et c'est gratuit.
Ouais, et en plus, c'est vraiment notre, sur les deux, quoi. C'est Facebook et Instagram.
C'est notre travail. Et après, bien sûr, si le produit fonctionne et si les clients, bien sûr, le souhaitent, ils pourront étendre l'utilisation. Dans un deuxième temps, d'abord, réussissons l'implémentation.
Vous espérez alors combien au niveau mondial et peut-être combien au niveau français d'entreprises qui se utilisent Facebook Shop.
Il est trop tôt pour le dire.
Là, vous avez bien fait un business model.
Il est trop tôt pour le dire. On fonctionne plutôt en lançant en permanence et de façon le plus adaptée des innovations et des produits qui nous semblent répondre à un besoin et à nos capacités technologiques. Donc d'abord on le lance. On va voir comment ça se passe. On va faire bien sûr dans les mois qui viennent, beaucoup de tests et on va essayer de tester pour les TPE, les PME, d'autres entreprises, voir comment ça fonctionne. Une fois qu'on aura vraiment une vue complète de ce qui fonctionne bien, de ce qui doit être amélioré, il sera temps, et je reviendrai vous voir si vous m'invitez, pour vous dire quel est le modèle économique qu'on a pu développer.
D'accord, donc là c'est vraiment une réponse à cette crise pour l'instant, voilà. Oui, Shop, c'est la réponse.
Oui, parce que
et puis après, on verra le.
Je pense que comme nous avons eu un rôle pendant la crise, qui n'est pas terminé, de nourrir le lien social, de relayer les actions de solidarité, de diffuser la bonne information, nous avons un rôle à la sortie de la crise d'aider à la reprise. Ouais. Et moi, je crois profondément, j'en ai la conviction, que l'outil digital, les plateformes numériques sont un levier de la reprise. Donc c'est notre responsabilité de le faire.
À Facebook, en tous les cas, avec des pubs sponsorisées, on peut se mettre un peu en avant. Selon des chiffres que vous avez publiés, vous avez vu la petite polémique depuis ce matin autour du Rassemblement National, enfin les élus européens du Rassemblement National auraient déboursé plus de 70 000 euros.
Ah, vous avez la capacité, nous avons changé notre modèle pour la publicité liée aux partis politiques, aux grandes associations et à tous les acteurs qui sont dans la vie publique. Si vous pouvez citer ce chiffre, c'est parce qu'il est transparent. Mmh. Il y a 2 ans, nous avons décidé d'encadrer différemment l'utilisation de notre outil publicitaire pour les acteurs de la vie publique et pour les acteurs politiques. Vous avez donc une librairie, une bibliothèque où vous voyez exactement toutes les dépenses qui ont été faites par ces acteurs. Quand, combien, sur quel territoire, et ce chiffre, si vous pouvez le donner, c'est parce que nous avons voulu la transparence pour tous les acteurs.
Il est significatif quand même, ce chiffre.
C'est vous qui le dites, je n'ai pas les détails des campagnes qui ont été faites, mais ce qui est important, c'est de voir que cette transparence, vous l'avez. C'est-à-dire que vous pouvez dire, en effet, tel acteur politique dans tel pays a dépensé tel argent sur une période donnée. Il y avait eu un débat, vous vous rappelez, il y a 2 ans, sur la façon dont les acteurs pouvaient utiliser les outils de Facebook, et on y a répondu en mettant des règles différentes et très claires, et de la transparence. La bibliothèque fonctionne, ça veut dire que ces outils fonctionnent bien.
Les élections municipales, alors on ne sait pas exactement si ça sera le second tour, sera là oui, ou
pour
pas.
Pour les élections en France, vous avez des règles sur ce qu'on appelle la publicité électorale, qui est contrôlée en France, qui est extrêmement réglementée, et bien sûr, nous les appliquons également.
Ça rentre dans les comptes de campagne, par exemple, une telle dépense?
Oui, je crois que pour un candidat, il doit déclarer absolument tout ça, mais il ne peut pas faire des publicités politiques, vous savez, pendant un moment donné, enfin, ce qu'on appelle la publicité électorale, et les règles qui sont celles de notre pays s'appliquent à Facebook comme à tous les autres médias.
Laurence Olivier, juste en conclusion, puis après tiens, je vous demanderai peut-être votre monde d'après. Certains disaient annoncer déjà la mort de Facebook, enfin c'était dans le monde d'avant. Hein. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est vraiment la crise qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre, a montré l'importance de ces réseaux sociaux.
Elle a montré l'importance, avant les réseaux et les plateformes, elle a montré l'importance du lien social.
Oui.
Et elle a montré à quel point, dans un monde qui se confinait, qui faisait face à un virus et une épidémie évidemment extrêmement dangereuse, on pouvait maintenir le lien social. Et nous, ça a été notre premier sentiment et responsabilité, c'est de participer à le nourrir. Nous avons été d'ailleurs très actifs dans notre pays pour aider chacun à continuer, au fond, son activité, son service, et les familles et les amis à vivre quand même dans cette période difficile. Donc je crois que ça a montré l'importance du lien social et le fait que dans notre monde technologique, les plateformes avaient un rôle à jouer. Et c'est ce qu'on a fait avec beaucoup d'acteurs en France, culturels notamment, et aussi de la solidarité.
Mais en même temps, dans ce monde d'après, on voit bien qu'il y a des limites. Hein. C'est qu'on a tous vécu un débit qui n'était pas suffisant, on n'arrivait pas tous à se connecter, oui. Des zones blanches, même si elles ne sont pas supposées être blanches. On a tous vécu ça. C'est un gros problème.
C'est pour ça que très vite, au mois de mars, notre première réaction, la première décision que nous avons prise, d'ailleurs dans le monde entier, pour répondre à ce que vous évoquez, ça a été de baisser le débit des vidéos sur nos plateformes pour justement que les réseaux puissent tenir. Et donc que les gens puissent rester connectés, ça a été la priorité de l'entreprise, parce que nous sommes une entreprise technologique, pour répondre exactement à ce point-là.
Oui, monde d'après, vous l'avez déjà un peu dessiné.
Il commence.
Oui.
Sera-t-il totalement différent ? On voit en tout cas des tendances. En tout cas pour le monde économique que vous analysez tous les jours, vous voyez bien cette accélération de l'utilisation de la technologie numérique. Et on pourrait parler de l'intelligence artificielle. C'est une accélération très nette qui va certainement façonner le monde qui commence aujourd'hui. Et ben dans ce monde-là, on a une responsabilité, on a un travail à faire.
Et juste encore un petit point, vous-même vous l'avez mentionné en disant, ben c'est sûr que notamment on parlait de Zoom, mais la concurrence, elle est là et en plus elle va s'aviver parce qu'on voit l'importance. On a passé une demi-heure à en parler. Par exemple, TikTok, ça vous fait peur, ça fait quelque chose qui émerge. Là, hop, tout d'un coup, comme des fusées.
On est toujours, vous savez, on essaie d'être toujours attentif, humble, avec une idée très, très forte, qui est une idée très permanente chez Facebook, que l'innovation est un élément très important des entreprises. Et qu'une entreprise qui arrêterait d'investir, d'innover, en particulier dans le monde digital qui est si rapide et si compétitif, certainement ferait les mauvais choix. C'est un compétiteur qui, en effet, développe un bon produit. Il y en a d'autres. Il y a toujours Snapchat ou d'autres réseaux sociaux. Donc, on innove et c'est pour ça qu'hier, on a annoncé notamment ce lancement de Facebook Shops.
Voilà, ça c'est un nouvel outil, à mon avis, qui va ouvrir d'autres perspectives ensuite, on a bien compris. Merci beaucoup. La résilience de Facebook qui est toujours là. Merci beaucoup
d'avoir été
avec nous. Laurence Lee, donc le patron pour Facebook France. Et puis de l'Europe du Sud, voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain à 8h15, demain 12h-13h. Bonne journée, peut-être bon week-end.